Je vous propose une intervention en 6 points. D'abord, une présentation qui fera office d'introduction du contexte, de la problématique et des objectifs de la recherche. Un deuxième point qui sera, somme toute, assez peu développé aujourd'hui sur l'évolution des systèmes et des espaces agricoles régionaux à travers une approche de statistique agricole. Je m'en servirai uniquement pour contextualiser rapidement hein, les zones sur lesquelles j'ai travaillé à l'échelle plus fine, qui nous amène à la troisième partie, donc de la statistique agricole à l'organisation spatiale des paysages en domaine laitier et bocager. Une quatrième partie sur la modélisation, enfin, qui ira de la modélisation spatiale aux logiques techniques d'organisation des exploitations. Et enfin, une cinquième partie qui s'intéressera, si j'ai le temps, aux logiques sensibles d'organisation des pratiques par les agriculteurs, c'est-à-dire hein, à ce que certains qualifiaient, encore dans les années 80, d'irrationalité dans l'organisation des exploitations. Et je conclurai brièvement le propos. D'abord, le contexte de cette recherche. En fait, la modernisation de l'agriculture a engendré, un peu partout en Europe de l'Ouest, des transformations qui ont bouleversé les espaces ruraux. Ce mouvement, impulsé par les grands organismes institutionnels, hein, je parle ici uniquement de la mise en place de la PAC, hein, essentiellement de la mise en place de la PAC, a clairement poussé l'agriculture européenne vers une logique qu'on peut qualifier de productiviste. Alors cette logique, elle était censée permettre l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration des conditions de vie paysanne. Ce modèle agricole, basé sur une forte productivité de l'agriculture et un soutien public massif à la production et au marché, semble avoir relativement bien rempli son rôle, en tout cas économique et commercial. Ceci dit, en favorisant la concentration du capital en agriculture, en encourageant l'intégration croissante des exploitations au système agro-industriel, cette marche forcée, que certains aussi ont qualifiée de marche forcée vers le progrès, a entraîné une véritable hémorragie démographique dans le monde agricole. Je renvoie là aux travaux, par exemple, de Michael Bermond, ou de bien d'autres. Et depuis une trentaine d'années, les problèmes posés par ce modèle de développement agricole ont émergé dans la profession, mais aussi dans le débat public, la concentration foncière accélérée, la transformation très rapide des paysages ruraux, les crises économiques, sanitaires récurrentes, notamment dans les années 90. La dégradation de la ressource environnementale sont en effet autant de sujets hein, de débat et d'inquiétude. Depuis, en allant un peu à la hache, une vingtaine d'années, les remises en cause du modèle productiviste ne cessent de s'amplifier, du moins prennent une ampleur nouvelle. Partout en Europe, les réflexions et les débats sur le développement de modèles agricoles alternatifs gagnent la société tout entière, et plus seulement le monde agricole. De vastes discussions sont ainsi ouvertes sur la reconnaissance de la multifonctionnalité des activités agricoles, le développement d'une agriculture biologique, la mise en place de circuits courts de commercialisation, le rapprochement entre consommateurs et producteurs, la relocalisation des productions ou la destruction des agricultures du Sud par les exportations des agricultures du Nord. La durabilité, la patrimonialisation des activités agricoles dans des espaces ruraux qui sont en fait en pleine recomposition sociale hein, à partir des années 60, fin des années 70, ébranle en fait un certain nombre de certitudes. Dans ce contexte, le renouvellement des rôles sociaux et territoriaux des activités agricoles dans les espaces ruraux, à travers l'entretien de l'espace, du paysage, de l'environnement rural, cristallise en fait une grande partie des interrogations. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, et ce qui me paraît central, c'est la question du paysage et de la fabrique du paysage par l'agriculture. Sa fabrique au sens le plus littéral du terme. En fait, cette fabrique du paysage par l'agriculture, elle apparaît sous bien des angles comme une entrée assez pertinente et surtout un concept, à mon avis, d'analyse efficace pour comprendre les transformations internes du monde agricole, à la fois dans leur dimension économique, sociale, symbolique et environnementale. En effet, postuler que les agriculteurs puissent être rétribués pour produire du paysage, ou pour leur rôle dans l'entretien du paysage, si on préfère, implique de connaître avec précision la nature des relations qui unissent agriculture, activité agricole, et paysage, au sens matériel du terme. Comment l'agriculture fabrique-t-elle alors du paysage? Suivant quelles modalités? Ces modalités sont-elles universelles ou dépendent-elles des contextes locaux, etc. Telles sont les questions, en fait, qui animent la démarche de recherche que je vais vous présenter. Alors, pourrait retenir une question générale. Quels sont les liens entre activité agricole, espace, parce que j'y tiens, et paysage en domaine laitier et bocager? En fait, établir un lien entre activité agricole, enfin, entre les activités agricoles, leurs évolutions et celles des paysages, ça peut paraître assez trivial. Mais un tel postulat nécessite, à mon avis, quand même, quelques petites précisions théoriques et épistémologiques.
Dans les années 50, enfin, on va dire des années 50 aux années 70, les géographes français ont massivement étudié les paysages agraires. En tout cas, pour ce qui est de la géographie la plus contemporaine. La description, l'inventaire, le classement des formes et des structures, le plus souvent menés sous forme monographique, sont longtemps restés des exercices assez classiques de la géographie rurale et agricole. Ils sont en revanche, ces géographes moins nombreux, à s'être explicitement intéressés aux processus généraux de production de structures et de formes par les activités agricoles, c'est-à-dire aux processus de production des formes. Je pense que l'explication réside dans le fait que la géographie agricole, contrairement à la géoagronomie par exemple, hein, qui apparaît dès le début des années 80, ne s'est pas franchement intéressée, hein, au lien entre formes paysagères et processus de production, ou du moins organisation des pratiques dans l'espace. En fait, durant cette période, en géographie, comme en histoire d'ailleurs pour une partie, le paysage est longtemps resté un produit d'une lente évolution, d'une évolution relativement lente, on va dire, des systèmes agricoles. Je vous renvoie par exemple à la masse impressionnante de travaux sur la genèse des paysages agraires, etc., etc. En fait, ces recherches, elles se sont focalisées sur les combinaisons géographiques particulières qui pouvaient exister en un lieu donné pour expliquer, on va dire à travers les permanences techniques et les équilibres sociaux des campagnes, la forme, hein, des paysages. Alors, à la fin des années 70, avec la diminution du nombre de travaux de géographie agricole et d'une certaine mesure de géographie rurale, et surtout le développement parallèle des géographies urbaines, sociales, culturelles, dans les années 80, le paysage n'est plus guère étudié en géographie rurale et agricole. Dans d'autres courants, au contraire, et moi c'est ça qui je trouve intéressant dans la thématique du paysage, c'est aussi pour faire écho un peu à l'intervention de Davodo lors du dernier séminaire, hein, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le même temps, d'autres disciplines s'emparent de l'objet paysage. Du coup, je n'irai pas jusqu'à dire le concept, en tout cas la notion. On remarque en effet qu'en agronomie ou en écologie, c'est-à-dire en biologie, l'utilisation du concept de paysage, couplée au développement en fait du paradigme systémique au début des années 80, a constitué une source de questionnement théorique et méthodologique très importante. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Rougerie et Berouchachvili, alors qui touchent un petit peu à la géographie physique, hein, mais aussi ceux de Baudry, de Richard et de Defontaine. Alors c'est dans ce contexte qu'apparaît, au milieu des années 80, l'école de Besançon, en géographie. Donc je vous ai mis une petite illustration, premier essai de théorisation un petit peu du système paysage. Donc très inspiré, hein, par le paradigme systémique, on le voit bien ici dans le schéma, hein. Donc le paysage, il est conçu comme un système ouvert, où on retrouve trois sous-systèmes, un système producteur, un système paysage visible et un système utilisateur. Ce que je trouve intéressant, dans ces approches de l'école byzantine, c'est en fait l'intégration d'un élément quand même relativement nouveau, c'est le système paysage visible, qui permet d'intégrer les représentations et les perceptions qu'ont les individus du paysage, et non plus seulement sa forme matérielle. Alors, avec le renouveau des recherches en géographie rurale dans les années 90, où l'environnement a pris une place, hein, de plus en plus importante, on assiste à de multiples tentatives de redéfinition, voire même de reconceptualisation du paysage, ce qui donne lieu en fait à un foisonnement qui n'est pas toujours très clair, hein. À cette époque, on dit, c'est Yves Jungbul qui dit qu'il y a autant de définitions du paysage dans les années 90 qu'il y a de géographes qui travaillent sur le paysage. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que tout le monde y va de sa petite définition, tout le monde essaye de reconceptualiser un petit peu le terme. En fait, d'une définition, si on veut essayer d'éclaircir un peu tout ça, d'une définition du paysage simplement considérée comme l'expression matérielle du fonctionnement des sociétés, dans l'espace, on pourrait dire, on est passé à une définition un petit peu plus complexe, où on observe une forme d'articulation entre la dimension matérielle, tangible, et la dimension idéale du paysage. Alors cette période, elle est donc marquée, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, par un regain d'intérêt pour le paysage, qui est ainsi étudié comme un patrimoine culturel, mais aussi comme un révélateur des rapports sociaux, par exemple des conflits, comme l'a fait Davodo il y a un mois, ou des dynamiques d'appropriation de l'espace. Il est objet de perception, de représentation sociale, qui lui donne un sens pour les individus et les groupes sociaux qui essayent de se l'approprier. Il est porteur de projets d'aménagement, ou révélateur de projets d'aménagement, ou encore outil de gestion de la nature et du territoire. Je pense que c'est des questions qui sont particulièrement criantes quand on travaille sur les éoliennes, beaucoup de choses. Alors, les recherches qui sont menées aujourd'hui en géographie, mais aussi dans d'autres disciplines, je pense à la sociologie, l'écologie du paysage, l'agronomie, abordent donc globalement le paysage suivant deux types d'entrées. D'une part, le paysage est étudié bien souvent comme un objet, contrairement à la deuxième entrée qui est celle du sujet. Alors, dans cette approche dite objet du paysage, le paysage est étudié dans sa dimension la plus matérielle, la plus concrète, la plus tangible. C'est ici la morphologie et les structures du paysage, moi j'aurais tendance à dire de l'espace, qui sont le plus étudiés. Alors, les apports méthodologiques de l'écologie du paysage sont ici indéniables. Je vous renvoie par exemple aux travaux des géographes comme Laurence Hubermois, Thomas Ouette, qui empruntent énormément aux travaux de Jacques Baudry ou de Claudine Tenaille pour l'écologie du paysage. Il faut savoir que c'est le type d'approche qui est la plus répandue aujourd'hui en géographie. De l'autre côté, on trouve un autre type d'approche qu'on pourrait qualifier de sujet, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ces chercheurs, le paysage n'existe qu'à travers les représentations dont il est l'objet. Le paysage est une représentation sociale de l'espace. C'est ici les relations intimes, sensibles, que les individus entretiennent avec le paysage, qui sont donc mises en avant. Et même parfois reliées à la structure matérielle de l'espace. On assiste donc, dans un certain nombre de travaux, à la connexion entre ces deux types d'approches, sujet et objet. Alors, étudiant ici les logiques de production du paysage objet, mon positionnement scientifique se situe donc à l'interface, en fait, de ces deux approches, puisque je travaille sur les paysages agricoles, produits par les agriculteurs. Donc, en m'intéressant au processus de production du paysage, je me suis également intéressé aux rapports qu'entretiennent les agriculteurs avec les paysages, forcément. Donc, j'ai essayé de tenir ces deux côtés du paysage, objet et sujet.
Alors, on pourrait réduire un peu l'objet de recherche à une comparaison des dynamiques et des logiques de production d'espace et de paysage agricole de l'échelle régionale à celle de l'exploitation. Je le disais tout de suite, en essayant d'articuler deux approches complémentaires, celle du paysage objet, celle du paysage sujet. Le tout, bien sûr, en combinant des méthodes quantitatives. Globalement, pour ce qui concerne l'étude du paysage objet, c'est de l'analyse spatiale ou de la statistique spatiale, c'est ce que je vais vous présenter juste après, et des méthodes beaucoup plus qualitatives pour ce qui concerne un travail d'entretien, en fait, avec des agriculteurs pour ce qui concerne le paysage sujet. En fait, la démarche, si on veut essayer de la simplifier, elle est, d'une part, comparative. J'étudie 3 grandes régions, 5 bassins laitiers, bien que le terme de bassin laitier serait critiquable ici dans l'emploi que j'en fais. Et la démarche, elle est multiscalaire, puisque j'articule 3 échelles spatiales, avec des transferts d'échelles, sur des temps plutôt courts, mais emboîtés, d'une dizaine d'années, jusqu'à la campagne culturelle, globalement. Alors, afin de mieux comprendre les processus de production de paysages, je vous propose juste un petit schéma qui articule en fait les questions que je me suis posées tout au long d'une démarche, on va dire, assez simplifiée là ici, de descente dans les échelles. À l'échelle régionale, je me suis interrogé sur les moteurs des transformations et de la différenciation, surtout des systèmes et des espaces agricoles. Bon, c'est pas une question nouvelle, c'est celle que s'était posée Guermont dans sa thèse en partie. À l'échelle de la petite région agricole, quels sont d'abord, d'une part, les principes de structuration des espaces et des paysages agricoles de bocage? Là, j'y passerai un petit peu plus de temps par la suite. Deuxième question, quelles sont les implications spatiales et paysagères, bien sûr, de la diversité des systèmes d'exploitation à l'échelle de la petite région agricole? Puisqu'on peut toujours dire qu'on travaille dans une petite région laitière, seulement toutes les exploitations ne sont pas identiques. Et à l'échelle de l'exploitation agricole, ce qui va nous occuper aussi pas mal aujourd'hui, comment les agriculteurs organisent-ils leurs pratiques dans l'exploitation? Premier élément. Deuxième élément, quel rapport entretiennent-ils avec l'environnement matériel direct, pour pas dire paysage? Et troisième question, quelles sont les implications des recompositions du modèle agricole européen sur les pratiques des agriculteurs? Ça, on pourra peut-être plus en parler pendant les questions, je n'ai pas prévu de le développer particulièrement aujourd'hui. Alors, toutes ces questions, si on les détaille un petit peu, elles placent toutes les pratiques des agriculteurs au centre de la recherche. Alors, si on essaye de faire un petit peu d'épistémologie sur la manière dont ont été abordées les pratiques des agriculteurs en géographie récemment, on s'aperçoit qu'en fait le périmètre disciplinaire de la géographie, il se situe à peu près là où l'ellipse apparaît. C'est-à-dire autour récemment, à partir des années 90, autour des travaux de Nicole Mathieu, de Marianne Cohen, de Chantal Blanc-Pamard, Jacqueline Bonamour, Armand Frémont, etc. Donc sur un lien, des études qui mettent en valeur le lien entre pratique des agriculteurs et construction, production d'espace rural ou de paysage rural.
Seulement, je me suis vite rendu compte que la problématique que je m'étais choisie, elle impliquait de s'intéresser à bien d'autres dimensions que les dimensions uniquement géographiques et sociales des pratiques des agriculteurs. Elle m'emmenait hein, systématiquement vers les dimensions techniques, hein, qui relèvent plutôt de l'agronomie, de la zootechnie, les dimensions techniques et spatiales, qui m'emmenaient clairement entre l'écologie du paysage et la géoagronomie, mais aussi les dimensions sociales et symboliques, plutôt vers la sociologie, l'anthropologie, ainsi que les dimensions cognitives, quasiment jusqu'à la psychosociologie. Donc en fait, le travail que je vais vous présenter, hein, il emprunte tantôt des méthodes, tantôt plutôt des théories à ces différentes disciplines. Donc c'est aussi un travail d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité au sein de ce travail. En tout cas, sur le plan bibliographique. Alors, méthodologiquement parlant, le travail, en lien avec les questions posées précédemment, s'articule de la manière suivante. Je me suis appuyé, hein, et ça je vais le détailler très brièvement, sur l'analyse, enfin le traitement, l'analyse des données statistiques issues des différents recensements anglais, français et espagnol, à deux dates, 1990-2000, tout simplement, pour une raison qui était simple, c'est qu'il n'y avait pas de nouveau recensement accessible pour 2010, hein. Enfin, j'ai soutenu ma thèse en 2009, mais il n'y avait pas de nouveau recensement, à part en Angleterre, mais c'est comme pour l'INSEE aujourd'hui, c'est un recensement, c'est des sondages, quoi. C'est pas un recensement exhaustif. L'idée, en prenant ces deux bornes, 90-2000, c'était de mesurer l'effet d'une politique, enfin, la réforme de la PAC de 92, dans des espaces qui étaient déjà tous entrés dans l'Union européenne, où la PAC de 92 est censée s'être appliquée à peu près partout de la même manière, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais à partir de 94-95, on avait des mesures hein, qui s'appliquaient un petit peu partout. Ça, c'était pour l'échelle régionale. Pour ce qui concerne l'échelle de la petite région agricole, je me suis appuyé en fait sur la production et l'analyse. Alors ça pourrait être tout à fait comparé au travail des historiens, hein, de dépouillement d'archives. Sur la production et l'analyse de données SIG à l'échelle parcellaire. Donc en fait, j'ai numérisé, hein, c'était de la numérisation pure, de parcellaire. Donc j'ai obtenu un échantillon de 55 000 parcelles, c'est mon corpus. Celui que je vais détailler juste après, dans 5 bassins laitiers ou bocagers des 3 grandes régions que j'ai citées précédemment. J'ai aussi traité les données issues d'une enquête par questionnaire réalisée dans chacune des zones d'études. Et enfin, au niveau de l'exploitation, j'ai toujours mené un travail d'analyse spatiale et de recueil de données, hein, de numérisation, mais surtout de recueil des pratiques effectives des agriculteurs dans leurs exploitations, pour essayer de comprendre avec eux comment concrètement s'organiser une exploitation. Suivant quel processus. J'ai aussi traité et analysé donc, les données issues d'entretiens compréhensifs et les données, ça on en parlera un petit peu à la fin de l'exposé, d'une enquête participative qui reposait sur la distribution d'appareils photojetables aux agriculteurs. Alors, concrètement, les espaces sur lesquels j'ai travaillé. En fait, d'abord à l'échelle régionale et dans ce qu'on pourrait qualifier d'un grand arc laitier de l'Europe de l'Ouest ou de la façade atlantique de l'Europe de l'Ouest. J'ai travaillé d'abord sur une partie du sud de l'Angleterre, ce qu'on appelle le Wessex, hein, donc les counties du Dorset, du Somerset, du Wiltshire et du Hampshire, la Basse-Normandie évidemment, et les deux provinces du nord de la Galice, à Corunia et Lugo. Donc vous voyez hein, que j'avais essayé, au niveau de la construction de la démarche comparative, de saisir des régions à peu près de taille équivalente. Alors évidemment, elles ont des points communs, hors de leur, mis à part leur taille. D'abord, sont 3 régions d'élevage bovin, ou du moins réputées comme telles, mais qui possèdent quand même des systèmes variés. Ce que je cherchais en fait, et vous allez comprendre un petit peu le ressort de la démarche comparative ici, c'était des régions où l'élevage laitier est important, mais qui n'étaient pas que des régions d'élevage laitier. Je voulais aussi saisir, hein, dans une première partie en fait de ma thèse, si elle circule, les dynamiques d'évolution des systèmes céréaliers et d'autres types de systèmes. Deuxième grand point commun, c'est des régions qui sont toutes soumises aux mesures de politique agricole, avec des mesures dérogatoires pour l'Angleterre, mais on pouvait considérer qu'en tout cas, il y avait des mesures qui s'appliquaient partout de la même manière. Et si ce n'était pas le cas, c'était intéressant de toute manière de constater l'évolution des systèmes pour essayer de comprendre un petit peu les ressorts de tout ça. Cependant, il y a de fines variations, et ça, c'était voulu dans la démarche comparative. Vous allez voir que c'est un fil rouge, hein, ces fines variations. En fait, c'est premièrement la place variable de la surface agricole dans l'espace régional. Hein, on est à peu près à 60% pour la Galice, quasiment 80% pour la Basse-Normandie, aux alentours de 70% pour le Wessex. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que vous l'avez ici sur le petit graphique,
avec en ordonnée le poids économique de l'élevage et en abscisse la dimension moyenne des exploitations. C'est une sorte de gradient qui nous emmenait de la Galice, où on retrouve un poids économique de l'élevage très important dans l'économie agricole régionale, et des très petites exploitations, la Normandie qui se positionne en de manière intermédiaire, et le Wessex, où on a en fait une très faible part occupée par l'élevage bovin dans l'économie régionale, et de très grandes exploitations, pour faire simple. Au sein de ces trois grandes régions, j'ai choisi 5 espaces laitiers et bocagers, à partir d'une démarche statistique que je vais vous présenter tout de suite. Alors, en fait, je me suis appuyé sur les recensements disponibles, après avoir harmonisé les bases de données, etc., etc. J'ai mené de front deux types d'analyses. Une analyse sur les orientations productives, c'est-à-dire, pour faire simple, sur les OTEX, hein, sur les orientations technico-économiques des exploitations, et une analyse sur les combinaisons d'usage du sol, en essayant de comprendre un petit peu quelles étaient les dynamiques d'évolution. Et j'ai enfin couplé... Alors, oui, bon, d'abord les premiers résultats, pour en donner quelques-uns, hein, c'est que, globalement, les dynamiques d'évolution des systèmes agricoles sont convergentes sous l'effet de la PAC de 92 et de l'évolution, bien sûr, du marché agricole européen et manière marché mondial d'une certaine manière. On constate, en fait, deux grands ensembles de choses. D'abord, sur le plan des orientations productives, une forte diminution du nombre d'exploitations, moins pour ce qui concerne les structures agricoles, on pourrait dire, et son corollaire, hein, une forte concentration foncière. Pour ce qui concerne les combinaisons d'usage du sol, en tout cas ce qui est visible à travers les combinaisons d'usage du sol, on constate une très forte intensification fourragère partout et une progression des cultures céréalières, à l'exception de la Galice, où les cultures céréalières, hein, représentent une part très 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 faible de la SAU régionale. Mais on s'aperçoit quand même que les contextes régionaux contrôlent encore une partie des transformations des systèmes agricoles. Ensuite, j'ai voulu combiner les variables que j'avais à disposition sur les orientations productives et les combinaisons d'usage du sol pour créer des typologies des systèmes de production, au sens littéral du terme, agricole en 2000. Ce qui m'a permis, en fait, de sélectionner des espaces d'études à partir de typologies réalisées à l'échelle régionale, à l'échelon souvent spatial le plus fin disponible. Ici, le Wards pour l'Angleterre. Donc, pour l'Angleterre, j'ai choisi une petite zone, ici, qui s'appelle le Blackmoor, au nord du Dorset, qui est une zone donc, qui a un profil très très laitier, c'est le type C1, hein, le plus laitier de cette région. On en retrouve quelques-unes, hein, dans les Mendip Hills, dans le Somerset. Pour la Basse Normandie, j'ai choisi 3 zones, toujours suivant le principe, on en reparlera tout à l'heure, hein, pas de comparer pied à pied des régions parfaitement identiques, mais justement de choisir des gradients. Le sud du Pays d'Auge, le Bocage Virois et le sud Manche, qui s'inscrivent en fait tous dans le type A, le type élevage, pour la Basse Normandie, mais suivant, hein, des configurations locales différentes. Et enfin, en Galice, j'ai choisi une zone au nord de la Terracha, hein, complètement à l'est de Villalba, donc qui est en fait une zone assez emblématique, hein, du nord de la Terracha et surtout de la Galice et de la modernisation laitière espagnole. On retrouve des exploitations qui sont tout à fait comparables avec celles... toutes raisons gardées, hein, qui sont beaucoup plus petites, qui utilisent beaucoup plus l'herbe, qui la valorisent différemment, mais qui sont comparables avec les exploitations qu'on retrouve en Normandie et en Angleterre. Alors, cette phase statistique, elle m'a amené à m'intéresser à ces échelles, là, des petits bassins laitiers et bocagers, à l'organisation spatiale des paysages agricoles. Alors, de la même manière, alors mince, est-ce que je peux avoir la souris? Ça va être plus simple. Donc on retrouve en fait ici sur le graphique que vous avez à l'écran nos 5 espaces d'études, le Blackmoor, le Sud Pays d'Auge, le Bocage Virois, le Sud Manche et la Terracha, qui se situent en fait eux aussi sur un gradient ici qui est ordonné suivant 2 axes, en ordonnée la surface moyenne des parcelles, donc la pulvérisation parcellaire, hein, et en abscisse le nombre d'exploitations pour 100 hectares, c'est-à-dire la densité d'exploitation, ce qui renvoie indirectement pour 100 hectares 2 SAU. Ce qui renvoie indirectement à la taille des exploitations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, en Angleterre, on retrouve de très grandes exploitations, avec une faible densité d'exploitation, avec des structures parcellaires très lâches, très larges. Et à l'extrême inverse, hein, en Terracha, une très forte densité d'exploitation sur un parcellaire totalement pulvérisé. Alors je vous ai mis, juste parce que je pense que c'est intéressant d'illustrer, je vais peut-être ce défaut-là avant, je ne le faisais peut-être pas assez, des photographies aériennes qui sont exactement à la même échelle, hein, vous l'avez en bas à droite de l'écran, de chacune des zones. Alors en fait, la Terracha, elle est hop, ici. Donc j'ai procédé pour chacune de ces cinq zones, quand je parlais d'un travail, je pense qu'il ressemble un peu au dépouillement d'archives des historiens, un travail de numérisation parcellaire et d'inventaire des catégories d'usage du sol, normalisé pour chacune des zones. Le tout dans le but de créer des SIG. Alors ici, vous avez par exemple tous les points noirs que vous voyez en bordure, mais il y en a aussi, on ne voit pas très bien, mais un certain nombre dans le centre, enfin sur toute la carte. C'est les exploitations agricoles relevées sur le terrain, les chemins d'exploitation, donc les parcelles, les haies, les surfaces boisées. Et tout cela m'a permis de construire un SIG pour chacune des zones, pour essayer d'analyser ce qu'on appelle de la statistique spatiale, la structure du paysage. Essayer de la percer, de la mettre au jour. Alors, vous voyez qu'en Galice, hein, on a donc des parcelles qui font 1,5 hectare en moyenne, pour un peu plus de 6 exploitations pour 100 hectares. Je vais essayer d'aller relativement vite, hein, pour ne pas perdre trop de temps avec ces éléments-là. Ensuite, le Sud-Manche, qu'on retrouve sur le gradient, où on retrouve en fait des exploitations en moins grand nombre, hein, puisqu'on a une densité qui est un peu plus faible, on a un peu moins de 3 exploitations pour 100 hectares, et surtout des parcelles qui sont qui restent quand même 3 fois plus grandes qu'en Galice, en moyenne, mais qui restent petites, hein, on regarde, vous allez voir, hein, des espaces qui viennent, puisqu'on a un peu plus d'un hectare et demi en moyenne. Un bocage, je ne l'ai pas précisé pour la Galice, mais un bocage pour ce qui est du Sud-Manche, qui est relativement dense si on s'intéresse au linéaire par hectare de SAU, mais qui, au regard du taux d'embocagement moyen des parcelles, c'est-à-dire la part du périmètre bocager de chaque parcelle, paraît assez dégradé, puisqu'on est à moins de 40% du périmètre des parcelles qui est bocagé. Le bocage virois, alors je vais passer vite également, hein, juste un élément, des parcelles un petit peu plus grandes, hein, presque 2 hectares, densité d'exploitation agricole juste supérieure à 2 exploitations pour 100 hectares, c'est-à-dire une densité encore un peu plus faible. Un réseau bocager, cette fois, beaucoup plus dégradé encore, parce qu'on est à peine à 30%, enfin juste au-dessus de 30% du périmètre des parcelles bocagères, mais des densités, hein, linéaires par hectare de SAU qui restent relativement fortes, hein, au final, hein, puisqu'on est à plus de 50 mètres par hectare de SAU. Le Pays d'Auge, donc le sud Pays d'Auge en Normandie, où cette fois on a des parcelles qui sont plus grandes, on est presque à 2 hectares et demi, une densité d'exploitation agricole légèrement supérieure à 1,4, un réseau bocager qui cette fois est bien mieux conservé, puisqu'on a 55% en moyenne des parcelles qui ont un bord bocager, et presque 70 mètres de linéaire de haies par hectare de SAU. Enfin, en Angleterre, on retrouve des très grandes parcelles, puisqu'elles font en moyenne plus de 3 hectares et demi, une faible densité, donc vous voyez, c'est tous les points noirs, les exploitations ici, une faible densité d'exploitation, puisqu'on est à 1,2 exploitations pour 100 hectares, et surtout, un réseau bocager très bien conservé, puisqu'on a plus de 70%, légèrement, juste au-dessus de 70% du périmètre des parcelles qui est bocager, et surtout, encore 83 mètres de linéaire de haies, hein, pour un hectare de SAU. Alors, vous voyez que l'idée, ça a été de comparer, en fait, ces trois zones-là et d'essayer de comprendre quels étaient les processus, ou du moins, les logiques d'organisation de ces espaces-là. Alors, pour procéder à une telle analyse, il fallait donc produire de la donnée. Donc, chaque parcelle, comme ici, a été numérisée. Et pour chaque parcelle, on a essayé de créer de la donnée, de créer de l'information, des variables descriptives, la pente, la position topographique, la surface, la forme, l'allongement, la distance aux routes et la distance aux exploitations. En fait, c'est en utilisant maintenant des choses assez classiques en géographie, ce qu'on appelle les MNT, les modèles numériques de terrain, que pour chaque parcelle, on a pu déterminer l'altitude, la pente et ce qu'on appelle le TPI, c'est l'indice de position topographique, l'IPT, on devrait dire plutôt, sans angliciser, en fait, qui permet de définir si la parcelle est... Parce qu'une parcelle qui a 3% de pente, c'est intéressant de savoir qu'elle a 3% de pente, soit, mais c'est quand même plus intéressant de savoir si elle est dans le fond de vallée ou sur l'interfluve. Donc l'idée, c'était, à partir de ce TPI, enfin de cet indice de position topographique, de pouvoir déterminer si la parcelle se situait en interfluve, en haut de versant, sur un replat de versant,
en bas de versant ou en fond de vallée.
Donc ensuite, hein, d'autres variables classiques, hein, la pente moyenne, la pente maximum, pour définir des ruptures de pente, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les variables que j'appelle, moi, physiques. Mais il y a eu aussi un certain nombre d'autres variables qu'on peut qualifier, qu'on peut ranger en deux groupes, des variables dites morphométriques, la surface, l'indice de forme de la parcelle, c'est-à-dire si la parcelle a une forme très complexe, avec beaucoup de pointes, l'indice de compacité de la parcelle, ça en gros c'est en négatif, c'est l'indice d'allongement, hein, c'est l'inverse de l'indice d'allongement, et la part du périmètre bocager, hein, dont j'ai déjà parlé. Et puis d'autres variables sont au nombre de deux, c'est ce qu'on appelle les variables topologiques. C'est la distance, ce qui relève en fait de la position de la parcelle par rapport à d'autres objets. C'est la distance aux routes, c'est-à-dire l'accessibilité, est-ce que la parcelle est enclavée ou pas. Et enfin, la distance au siège d'exploitation. Alors cette variable-là, elle a fait l'objet d'un calcul un petit peu particulier, en se réinspirant un petit peu des travaux quasiment de Van Thunen et de Christaller. L'idée, ça a été de se dire, bon, j'ai pas les données des structures foncières à l'échelle de mes zones de 20 000 hectares, parce qu'elles font 20 000 hectares à peu près, les zones, les petites zones, les 5 zones laitières. Donc je vais faire un calcul théorique, je vais définir des aires d'influence pour chaque exploitation, chaque point ici, et rattacher à cette exploitation toutes les parcelles qui en sont le plus proche. Donc en fait, hein, c'est comme des polygones de Thiessen en analyse spatiale, c'est-à-dire que on a un point A, un point B, bah, la distance elle se fait à mi-distance entre les deux points. Alors au début, moi j'étais pas très confiant dans cette méthode-là, mais on va voir qu'elle a donné des résultats pas inintéressants. Donc le but, ça a été de compiler toutes ces informations-là dans un tableau d'informations géographiques, donc c'est le principe des SIG, des systèmes d'informations géographiques, et de croiser ça avec les usages du sol pour essayer de comprendre s'il y avait des facteurs qui influençaient de manière déterminante l'allocation d'un usage à une parcelle. Alors, très classiquement, je vais aller très vite, hein, ici, quand on regarde les variables morphométriques, ce qui est le plus classique, on va dire, en géographie agricole, on s'aperçoit d'une chose assez évidente, c'est que partout, dans toutes les régions, les parcelles en culture sont les plus grandes. Rien de révolutionnaire. On s'aperçoit également, rien de révolutionnaire, que partout, les friches sont les parcelles qui cumulent le plus de handicaps, c'est-à-dire que c'est les plus pentues, mais aussi les moins compactes, les plus allongées, et celles qui ont les formes les plus complexes. Mais on remarque aussi que ce sont les cultures qui ont les formes les moins complexes et qui sont les plus compactes, à l'inverse. Les variables morphométriques, je ne m'attendais pas, moi, hein, dans le travail, à avoir de résultats révolutionnaires. Pas du tout. C'était assez classique et assez attendu. Par contre, ce qui était moins attendu, c'était les résultats, hein, du travail sur la distance au siège d'exploitation le plus proche. Puisqu'en fait, on remarque, donc ici, bon, faut juste rentrer un petit peu dans les graphiques. Vous avez ici la part que représente chaque usage dans chacune des catégories de distance, puisque je suis repassé en catégorie de distance, donc on a la première auréole, deuxième auréole, troisième auréole, cinquième auréole, jusqu'à la septième. Donc en fait, plus on avance ici, plus on s'éloigne des sièges d'exploitation. En fait, ce qu'on remarque, c'est que plus on s'éloigne des sièges, moins les prairies permanentes sont surreprésentées. Ça, c'est la courbe ciseau, et plus les cultures le sont. C'est la courbe ciseau qui était classiquement admise, hein, y compris dans la bibliographie pour les régions de l'ouest de la France. Seulement, je me suis rendu compte, en fait, qu'on n'avait pas du tout ce modèle-là en Normandie. On avait un modèle bien différent. Ce modèle, c'est celui d'une courbe bombée des cultures, et non pas une courbe croissante de la surreprésentation des cultures. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que les cultures sont sous-représentées dans les auréoles les plus proches des sièges d'exploitation, ce qui paraît logique dans des régions laitières, on y reviendra après. Mais elles sont surreprésentées jusqu'à la 3, 4e, 5e auréole, et ensuite elles replongent et elles sont de nouveau sous-représentées. Et on retrouve des prairies massivement présentes, loin des sièges d'exploitation. Alors il y a tout un tas d'explications. À cette échelle-là, on ne peut pas apporter réellement de réponse. On voit juste quelque chose, sachant que on ne sait pas si les parcelles, cette parcelle-ci est exploitée par cette exploitation-là, etc. Ça reste une modélisation statistique, hein, une démarche d'abstraction par rapport à l'espace. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie uniquement les cultures, ici, je vous avais mis les prairies et les cultures, sans distinction du maïs, des céréales. Par contre, si on s'intéresse à la distinction maïs-céréales, on remarque un autre phénomène très intéressant, c'est que partout, le maïs suit la même courbe, une courbe bombée, justement. Et que, en Angleterre, par exemple, les céréales suivent bien la courbe des cultures. C'est-à-dire qu'elles augmentent progressivement plus on s'éloigne des sièges. Contrairement au maïs.
Et ce qui est particulièrement intéressant, à mon sens, et ce qui commence, en tout cas dans le processus de recherche, qui commence à devenir très intéressant, c'est quand on a l'apparition de ce type de forme ici, dans le sud de Manche et dans le bocage virois, c'est-à-dire de courbes décalées. On a une première courbe pour le maïs et une deuxième pour les céréales. Ce qui sous-entendrait, ou tout au moins ce qui nous permet de poser une hypothèse, c'est que pour les agriculteurs, et on le verra par la suite à l'échelle des exploitations, pour les agriculteurs, il y a un système, visiblement, en tout cas ce qu'on peut émettre comme hypothèse ici, c'est de dire que les agriculteurs vont préférer mettre le maïs moins loin que les céréales. Et on verra pourquoi. Alors en fait, on a donc deux modèles. Un modèle de diminution progressive des prairies, plus on s'éloigne des sièges, et un modèle en cloche, hein, comme en Normandie, donc qui concerne en fait la Terre Hacha, le sud Pays d'Auge, le sud Manche, le bocage virois, et de l'autre côté, le modèle 2, qui concerne uniquement le Blackmore. Alors je disais, hein, c'est la première surprise, parce que moi je m'attendais partout à trouver le modèle 2, ce qui n'était pas le cas. Alors la question que je me suis posée ensuite, hein, au regard de ce que j'avais... là, je vais pas vous présenter les résultats de ces travaux-là, mais quand on regarde un petit peu les données de télédétection, sur des évolutions, cette fois, on s'aperçoit qu'en fait, un certain nombre de régions, celles en fait précisément où les courbes sont les plus nettement dissociées, celles du maïs et des céréales, on peut se demander si on n'a pas une progression vers du modèle 1 vers le modèle 2. C'est-à-dire une élimination progressive des prairies lointaines dans les systèmes d'exploitation. Ça, c'est l'hypothèse, en fait, qui a guidé mon travail à l'échelle de l'exploitation. Enfin, c'est une des hypothèses. Alors, juste pour essayer de travailler encore un petit peu en analyse spatiale, j'en ai parlé avec Philippe, je lui ai demandé ce qu'il voulait au niveau de l'intervention. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions d'analyse spatiale au pôle, on peut le dire. Donc j'ai voulu vous présenter ici une tentative de modélisation, enfin d'abstraction complète, hein, par rapport à l'espace. Alors, évidemment, il y a ici des critiques qu'on peut faire, hein, mais je pense qu'il y a, il y a des vertus aussi intéressantes à ce type d'abstraction. Donc en fait, ici, j'ai repris un carré de 500 hectares, censé figurer chacune des zones, ou l'organisation du paysage dans chacune des zones, et j'ai reproduit avec un semis de points aléatoires la densité d'exploitation de chacune de ces zones-là. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que partout, on a un système... autour des exploitations, on a une première couronne d'herbe. Alors, vous voyez, hein, cette première couronne, elle va de 0 à 300 mètres en Angleterre et de 0 à 100 mètres dans le Sud-Manche. Évidemment, on se doute que la taille des exploitations n'y est pas pour rien. On retrouve partout une deuxième auréole où on a une surreprésentation des cultures de maïs fourrage. Alors, plus ou moins importante, hein, suivant les endroits. Vous voyez que dans le bocage virois, c'est une auréole qui est beaucoup plus étendue que dans le Pays d'Auge, par exemple. Dans quelques endroits, quand les courbes sont particulièrement bien dissociées, on retrouve une auréole spécifiquement dédiée aux cultures céréalières ou au colza. Et enfin, et c'est là que les différences se font réellement, soit des céréales dans les espaces interstitiels en Angleterre, soit des prairies partout ailleurs. Alors, les résultats concrètement de ce travail-là, qu'est-ce qui nous permet de dire, avant de passer à l'échelle profonde, celle de l'exploitation agricole, la plus foisonnante en fait? D'abord, on a des logiques, ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'on a des logiques identiques d'organisation du paysage dans chacune des zones étudiées, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas un pari que je faisais. Surtout, au regard de la forte diversité, de la très forte diversité des structures spatiales qu'on retrouve hein, concrètement dans ces espaces-là. Je pense à la pulvérisation parcellaire, on a vu à quel point elle pouvait être importante. À la place des cultures, puisqu'on passe de 5% de maïs en Galice à 38, 39, 40% dans la SAU dans le Sud-Manche. Mais aussi en fonction de la concentration foncière, en gros de la densité d'exploitation. Deuxièmement, ce travail il a permis donc d'identifier les principaux facteurs, en tout cas de poser une hypothèse sur les principaux facteurs d'organisation des usages du sol dans l'exploitation. La distance d'abord, qui paraît être le premier facteur, et ensuite combiné... hein, la morphologie, la surface, la forme, etc. Cependant, on remarque dans chacune des régions de fines variations hein, qui s'expliquent en fait par des facteurs locaux. Le niveau de concentration foncière, encore une fois, hein, qui peut agir tout de même de manière assez déterminante. La dimension des exploitations, bon, évidemment. Et surtout, le type de système d'exploitation. Et c'est pour ça que j'ai réalisé dans un deuxième temps une enquête dans les exploitations par questionnaire pour essayer d'avoir hein, accès aux données individuelles en fait, du recensement. Que j'avais pour la Normandie, mais que j'avais ni pour la Galice, ni pour l'Angleterre. Et puis le but, ça a été ensuite de confronter ces modèles-là à la réalité, en fait, du fonctionnement des exploitations. Voir jusqu'à quel point hein, cette démarche d'analyse spatiale, elle pouvait être pertinente ou pas. Parce que peut-être qu'elle nous montre, bah, maintenant je peux vous dire que non, mais moi je me demandais s'il n'y avait pas des artefacts statistiques, enfin de statistiques spatiales, qui pouvaient nous montrer des courbes de ce type-là, mais pour un modèle qu'on aurait pu ne pas du tout retrouver dans les exploitations. C'était possible. Donc ça m'a amené en fait à m'intéresser aux logiques techniques d'organisation des exploitations agricoles en partenariat avec les agriculteurs. Alors d'abord, il a fallu échantillonner. Puisqu'en fait, on s'aperçoit, donc ici vous avez une projection, une typologie d'exploitation pour l'ensemble des zones, Angleterre, tout confondu.
Donc un échantillon de un peu plus de 200 exploitations. Donc moi, le but, ça a d'abord été de faire une typologie pour essayer d'enquêter les bonnes des exploitations relativement représentatives hein, de chacune des zones d'étude.
Donc je suis arrivé à un échantillon. J'ai retenu au final un échantillon de 25 exploitations agricoles.
Qui est intéressant en soi, hein, puisque en fait vous avez sur le tableau que je vous présente avec toutes les exploitations enquêtées, enfin il y en a plus que ça enquêtées, mais celles que j'ai retenues pour l'analyse,
deux hautes. Alors oui, sur en gros les ordonnées du tableau, vous avez pour chaque région la petite exploitation la plus grande, hein, une progression. Mais vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est que le degré de concentration parcellaire dans chacune des régions, il est lui aussi progressif. C'est-à-dire qu'on a des exploitations en général très morcelées en Galice, assez morcelées dans le Sud-Manche, relativement morcelées dans le Bocage Virois, beaucoup moins dans le Pays d'Auge, et des structures qu'on ne rencontre pas du tout en France, hein, en Angleterre. Évidemment, c'est lié à l'histoire foncière anglaise.
Alors, le premier obstacle, en fait, que j'ai rencontré dans le travail avec les agriculteurs, c'est de me dire, bon, si je veux travailler sur la question de la distance dans les exploitations, ce que j'ai fait en bon étudiant, j'ai regardé ce qu'avaient fait mes prédécesseurs. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, tous, ils avaient fait ça. En gros, une distance à vol d'oiseau entre le siège d'exploitation et les parcelles. Alors, en plus, ce type de démarche, c'est... il y a eu une massification de ce type de démarche à partir des milieux des années 90 jusque dans les années 2005, 2006, 2007. Puisqu'en fait, l'accès au SIG, en fait, ça, c'est le truc le plus facile à faire en SIG. Il y en a pour trois clics. On s'aperçoit que tout le monde fait ça. Seulement, moi, en voyant que les agriculteurs, je me suis dit, en analysant les données avec cette distance euclidienne à vol d'oiseau, hein, même en distance de Manhattan, mais c'est à peu près les mêmes résultats, je me suis aperçu qu'en fait, j'arrivais pas à retrouver de logique dans l'organisation des exploitations. Je me suis dit, mes résultats précédents sont pas bons, ceux de l'analyse spatiale à l'échelle de la petite région agricole. Puis après, en découvrant de nouveaux outils géomatiques, je me suis dit, premier élément, ça va te prendre du temps, mais sur quelques exploitations, tu vas relever les chemins empruntés par les agriculteurs, et puis on va recueillir les distances, ça fait, par la route. Bon, c'est ce que vous faites tous quand vous utilisez Mappy, via Michelin. Quoi. Donc en fait, il y a un petit algorithme dans le logiciel de SIG qui permet de le faire entre l'entrée de champ et le siège d'exploitation. Bon, ce qui ne règle pas le problème des parcours avec plusieurs parcelles, etc. J'en suis bien conscient. Alors, je me suis rendu compte que déjà, au niveau statistique, on commençait déjà à analyser de manière un peu plus pertinente les choses. Et puis enfin, en discutant avec les agriculteurs, je me suis aperçu que ce qui pouvait être intéressant aussi, en tout cas de manière exploratoire, c'était d'utiliser ce qu'on appelle une matrice de friction, c'est-à-dire de créer une distance coût, une distance contrainte. Donc en discutant avec les agriculteurs, je me suis aperçu qu'il y avait deux éléments centraux. Le type de route, est-ce que c'est une route carrossable ou pas ? Et la pente. Tout simplement, la pente, puisque quelles sont les fonctions parcellaires qui sont touchées par la contrainte logistique ? C'est les ensilages. Que ce soit de maïs ou d'herbe. On s'aperçoit assez régulièrement dans le bocage que, en fait, une part relativement faible des moissons de céréales sont ramenées à l'exploitation. Ou alors, c'est fait par un entrepreneur. Dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de distance. Alors, cette matrice de friction, elle est intéressante puisqu'elle nous a permis, en fait, d'arriver à une comparaison qui, moi, je trouve intéressante, mais qui est assez difficile. C'est dur de rentrer dedans. En fait, ici, vous avez, là, par exemple, pour une exploitation anglaise, il y a 40 parcelles. Donc, elles sont rangées ici par ordre croissant en fonction de la distance à vol d'oiseau. Et on s'aperçoit qu'en fait, si on analyse les choses avec la distance à vol d'oiseau, en fait, on analyse les choses avec une poutre un peu dans l'œil, puisqu'on s'aperçoit que les variations de distance réelles sont très importantes. Il y a des contournements, il faut passer par des routes, etc., pour atteindre les parcelles. Il y a des contraintes d'accès. Donc j'ai choisi, moi, de retenir la deuxième solution, ce qu'on appelle la distance réelle, empruntée par l'agriculteur. Alors, Qu'est-ce que ça donne tout ça? En fait, si on regarde un petit peu l'organisation des exploitations, on se rend compte qu'en fait, on arrive bien au modèle concentrique classique, avec les prairies pour les laitières et les prairies de fauche, qui sont aussi pâturées par les laitières, dans l'auréole la plus proche du siège. Une deuxième auréole de maïs fourrage, quel que soit le type de parcelle, qu'elle soit petite, grande, assez pentue ou pas, etc. Et enfin, la distinction en fait verticale, elle se fait à gauche les grandes parcelles, plutôt pour les céréales, le colza, etc. Et à droite, les parcelles soit les plus pentues, soit les moins grandes, pour ce que moi j'ai appelé les autres animaux, c'est-à-dire les génisses, les vaches taries, y compris les vaches taries, les bœufs, etc. Ou alors uniquement pour la fauche, si vraiment elles sont très éloignées du siège. En fait, il y a plusieurs raisons à ce modèle, hein. La double contrainte de traite quotidienne, évidemment, et surtout les contraintes logistiques liées au stockage des aliments en silage de maïs et en silage d'herbe. On peut donc confirmer l'hypothèse posée à l'échelle supérieure, hein. C'est en ça, hein. C'est ça qu'on appelle un transfert d'échelle, hein. On peut donc valider l'hypothèse posée à l'échelle supérieure que la distance, c'est le premier facteur de localisation des usages agricoles dans l'espace. Et qu'il est combiné avec d'autres facteurs, c'est l'hypothèse qu'on posait tout à l'heure, la surface, la forme, l'accessibilité et le type de sol, évidemment. Quand même. Ceci dit, ce modèle que je vous présente ici, il est issu d'une moyenne réalisée sur 25 exploitations, 950 parcelles, au sein de ces 25 exploitations. Et il ne faut pas qu'il occulte, hein, en fait, la très grande diversité des types de modèles d'organisation qui existent dans les exploitations laitières. En fait, toutes ne répondent pas systématiquement à ce modèle concentrique. On retrouve en fait il y a six grands types d'organisations, mais deux groupes. Un groupe qui respecte à la lettre la structure concentrique. C'est les exploitations du type A, du type B et du type F. Alors les exploitations du type A, hop, c'est les exploitations de ce type-là, pour faire simple, avec les pâtures des laitières qui sont parfaitement regroupées autour du siège, parfois une parcelle de maïs, hein, quand elle est particulièrement grande ou qu'elle s'y prête particulièrement bien, les autres animaux rejetés sur des parcelles éloignées, mais surtout des parcelles difficiles d'accès. Ici, en pointillé, un chemin difficilement carrossable. Et par contre, les parcelles ensilées, soit en maïs, soit en prairie temporaire, sur les parcelles les plus accessibles. Des exploitations du type B, qui sont assez communes en Basse-Normandie, hein, avec un modèle concentrique qui est relativement bien respecté, je vais aller assez vite, et surtout, ce qui est intéressant, parce que ça c'est relativement nouveau, hein, les exploitations multisites. Donc on retrouve en fait, hein, suite à la création de GAEC, ou comme ici, à la reprise de l'exploitation des beaux-parents, hein, dans le Sud-Manche. On remarque en fait dans ces exploitations-là, une très forte spécialisation spatiale, hein, des différentes unités fonctionnelles des exploitations. D'un côté, un siège, le siège historique en fait de l'installation de l'agriculteur, le siège laitier, où on retrouve les laitières et l'ensilage, qu'ils soient d'herbe ou de maïs. Et de l'autre côté, sur le siège en fait repris plus tard, 10 ans après, la production de céréales, globalement, et des bœufs pour la pâture. Alors, j'en profite juste pour rajouter un élément en voyant cette exploitation-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le remembrement, il y a eu un remembrement important dans cette commune, et il a eu un effet très positif sur la structure initiale, à l'époque du remembrement, qui était quasi parfaite, qui s'est agrandie après le remembrement une première fois, et surtout une deuxième fois. Voilà. Qui fait qu'on peut se demander s'il n'y aurait pas besoin d'une autre phase de remembrement dans ces espaces-là, ou en tout cas, les agriculteurs sont très souvent confrontés à ce type de situation en ce moment. Le deuxième sous-groupe, c'est les exploitations qui ne respectent pas du tout, ou très peu, le modèle concentrique. Ici, par exemple, une exploitation anglaise, classique, très groupée, hein, elle est quasiment sur un disque, hein, par rapport aux indices de groupement de Jean Renard, on n'est pas loin du maximum, hein, avec, en fait, ici, des parcelles de maïs, en tout cas des surfaces de maïs, qui se promènent sur tout le bloc siège, en fait, qui servent aussi à renouveler les prairies. Pour garder une production prairiale, hein, très importante. Les exploitations du type E, je vous les montre juste pour illustration, puisque c'est la Galice, hein, donc pour que vous preniez conscience un petit peu du morcellement parcellaire, hein, et des distances que les agriculteurs galiciens, des contraintes en tout cas auxquelles ils sont confrontés. Donc bien souvent, hein, c'est lié en fait à l'existence d'un tout petit bloc siège de parcelles autour du siège d'exploitation difficilement accessibles. Et surtout, un cas très courant en Basse-Normandie d'exploitation pour lesquelles le modèle concentrique n'apparaît pas du tout, où il y a une très forte présence de cultures autour du siège d'exploitation et directement autour du siège d'exploitation. Alors là, ce n'est pas indépendant des positions des agriculteurs, bien souvent, qui se considèrent, dans ces cas, ça marche presque à chaque fois, comme des cultivateurs plus que comme des éleveurs. Seulement, dans une exploitation comme celle-ci, le lait reste quand même la principale activité, et de loin, devant toutes les autres. Alors, même s'il y a deux modèles différents et que le modèle concentrique n'est pas partout respecté, ce qui est intéressant dans cette typologie là de six grands types d'exploitation, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'effet de taille. C'est-à-dire que pour le type A, on retrouve des exploitations de 55 hectares comme des exploitations de 350. Il n'y a que pour le type E, à la limite, où il y aura une question de surface, et encore, ce sera à discuter. Et surtout, il n'y a pas vraiment de spécificité régionale, à part pour le type E, encore une fois, qu'on retrouve plus souvent en Galice, en raison de la structure parcellaire. Alors, moi, j'aurais tendance à analyser ces éléments-là comme un révélateur, enfin, des révélateurs de l'homogénéisation des techniques de production dans le secteur laitier, et surtout dans les exploitations laitières au niveau européen. On remarque que les niveaux de mécanisation sont convergent, on arrive quasiment au même niveau, que ce soit en Galice ou en Angleterre. Et surtout, je pense qu'il y a, ce sera à discuter, moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il y a un effet aussi de la formation professionnelle qui fait que les agriculteurs sont beaucoup mieux formés, y compris en Galice, qui est la région où c'est le plus difficile. Et les agriculteurs mettent de plus en plus en œuvre ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire d'organiser de manière concentrique leur exploitation au maximum. Alors, après cette phase d'analyse spatiale, je voudrais qu'on... Si j'ai un petit peu de temps encore, je pense qu'en 5-10 minutes, ça peut être fait, pour discuter avec vous des logiques sensibles, d'organisation des pratiques des agriculteurs dans l'espace. En fait, l'analyse spatiale, c'est intéressant, mais ça permet qu'une étude factuelle de l'organisation des pratiques, pour l'instant. Et surtout, il y a une première limite à l'analyse spatiale, c'est qu'elle repose sur un postulat qui est celui du rationalisme. En tout cas, comme je l'ai mené. C'est-à-dire qu'on considère que les agriculteurs sont des individus rationnels qui organisent leurs exploitations suivant des principes de rationalité économique, pour faire simple. Objectivable, en tout cas. Seulement, on s'aperçoit, au cas par cas, que c'est pas toujours le cas. Par exemple, pour l'exploitation multisite que je vous ai montrée, je demandais à l'agriculteur pourquoi telle parcelle, qui avait plutôt un sol... très convenable, n'était pas cultivée alors qu'elle était grande. Il me disait, ouais, non, elle s'y prête pas trop. Puis en fait, parce qu'il savait bien qu'elle s'y prêtait parfaitement. Et puis il m'a dit, bah non, c'est parce que mon beau-père habite encore sur le site et que lui, il veut pas avoir de maïs devant chez lui. Et que comme il habite, concrètement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de maïs sur cette parcelle-là alors qu'elle pourrait être une super parcelle à maïs. Bon. Ce qui paraît tout à fait logique. Seulement, ça, c'est des raisons qui paraissent irrationnelles en termes de rationalité économique. Mais c'est les raisons de l'agriculteur. C'est pourquoi j'ai emprunté à Christophe Soulard et à Pierre Bourdieu le principe de, ce que j'ai appelé la logique pratique, ou la logique d'action en tout cas pour Bourdieu, pour étudier les pratiques des agriculteurs. C'est-à-dire que le but, ça a été d'essayer de comprendre ce que voulaient dire les pratiques pour les agriculteurs dans leur propre système de rationalité à eux, puisque toutes les pratiques sont rationnelles. Pour un agriculteur. Toutes les siennes le sont. La preuve avec l'exemple des beaux-parents. C'est rationnel. Alors le but, ça a été dans cette démarche, à travers des entretiens qu'on appelle compréhensifs avec les agriculteurs, d'essayer d'explorer les articulations entre leur propre conception de leur espace d'exploitation et surtout de leurs pratiques, et la manière dont ils organisaient leur travail. Et ces pratiques, dont ils les mettaient en œuvre ou pas d'ailleurs. Alors, il y a eu plusieurs pistes privilégiées. Ici, j'en creuserai qu'une. Donc, j'ai travaillé sur les perceptions et les représentations du milieu à travers les types de sols. Mais pas seulement, sur les conceptions de ce que ça veut dire d'organiser de manière concentrique une exploitation pour un agriculteur. Parce que ça dépend aussi de distorsion, de perception dans l'espace, d'orientation dans l'espace. Les représentations paysagères, c'est ce dont on va parler tout de suite. La manière dont ils conçoivent leur métier et les modèles professionnels auxquels ils se réfèrent, on va l'évoquer rapidement. Et enfin, les conceptions de l'activité agricole, donc en lien avec les positions qu'ils peuvent occuper dans les réseaux de sociabilité localement. Je ne vais pas développer cet aspect-là. En fait,
Je me suis aperçu qu'on avait affaire en Normandie, chez les laitiers, à quatre grands types d'agriculteurs, enfin, producteurs laitiers. D'abord, des meneurs. En fait, c'est des exploitants qui ont une vision, je vais faire très rapidement, très rapide, une vision assez techniciste du métier, qui sont pour la libéralisation des marchés agricoles, qui n'ont pas peur de la mise en concurrence, etc. Et qui sont des meneurs au sens, hein, ici la référence elle est claire, hein, c'est-à-dire qui souhaitent se distinguer par l'innovation technique. On retrouve ensuite des suiveurs, c'est classique, sur des exploitations dont l'équilibre économique est souvent beaucoup plus précaire, c'est pour ça qu'ils n'innovent pas beaucoup, et ils ont plutôt tendance à mettre en œuvre ce qui fonctionne chez les meneurs. On retrouve des agriculteurs que moi j'ai qualifiés d'alternatifs, alors ne pas entendre au sens, à ne pas confondre en tout cas avec ce que moi j'appelle les marginaux, hein, définis comme tels par les autres, des marginaux. En fait, vous les voyez, les quatre types d'agriculteurs que moi j'ai rencontrés se positionnent en fait sur un plan où on retrouve en haut des agriculteurs qui, alors c'est dans leur discours, hein, se réfèrent systématiquement à la technique et à l'idée de performance dans l'exercice de leur métier, à l'inverse de ceux qui se réfèrent à un système, alors c'est pas très satisfaisant comme truc, système dit traditionnel, ça, où il n'y a pas de notion de performance économique dans la conduite de l'exploitation. Il faut que l'exploitation tourne, point. Il n'y a pas besoin... voilà. Et en abscisse, vous avez donc les agriculteurs qui se réfèrent à un modèle plutôt peu intensif et les agriculteurs qui se réfèrent à un modèle, en tout cas, intensif, dans leur discours, en disant, moi, c'est l'intensif, point. Alors, en fait, on retrouve donc ces quatre figures, hein, c'est un idéal typique, hein, c'est vraiment des figures, on ne retrouve jamais exactement, bah, si, à part ici, mais ces types d'agriculteurs-là, mais c'est un peu des emblèmes. Alors, moi, je leur ai fait... à tous les agriculteurs à qui j'ai travaillé, je leur ai fait prendre des photographies. Donc, j'aurais distribué des appareils photo avec une fiche de thème. Et donc, ils étaient complètement libres. J'étais pas avec eux. Et j'ai récupéré les appareils photo 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après. Et il y avait une question que moi, je trouve intéressante. C'est celle qu'on va creuser là pour conclure. Je leur ai demandé de prendre en photo ce que eux qualifiaient de belles parcelles. Qu'est-ce qui est pour vous une belle parcelle? Et ils avaient une photo. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse un peu aux caractéristiques des parcelles prises en photo et qu'on couple ça à la typologie que je viens de vous présenter, en fait, on se rend compte que pour les agriculteurs, on va faire simple, on va prendre juste le type A et le type D. Pour les agriculteurs du type A, ceux que j'ai qualifiés de meneurs, on s'aperçoit que tous ont pris en photo des parcelles cultivées en labo, souvent en céréales ou en maïs. Ils ont tous pris des parcelles très grandes, de plus de 5 hectares, ils ont tous pris en photo des parcelles peu bocagères, voire pas bocagères du tout, et des parcelles plates. En gros, l'idéal de la mécanisation. À l'inverse, les agriculteurs du type B, où ils ont pris en photo le cauchemar de ceux du type A. C'est-à-dire des parcelles bocagères avec des pommiers assez petites et en prairie. Et la réciproque est vraie, hein, du type D vers le type A, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça révèle tout ça? En fait, ça révèle quelque chose qui est très profondément ancré, à mon avis, dans l'imaginaire du productivisme agricole et dans le monde agricole en général. C'est l'idéal de contrôle de l'espace et de la nature. Et ça, même chez des agriculteurs dont on pourrait penser que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est très profondément ancré, hein, chez tous les agriculteurs. Alors, juste, je voulais terminer avec ça, hein, quelques citations, puisque le but, en faisant prendre des photos aux agriculteurs, c'était pas du tout d'analyser les photos en tant que telles, mais c'était surtout de revenir avec les photos, de les mettre sur la table et qu'on puisse discuter, quoi, pour essayer de recueillir un discours. En fait, on s'aperçoit qu'il y a très souvent des références, alors là je vais rien vous apprendre, hein, c'est assez classique, les sociologues l'ont montré bien avant moi, au propre, au sale, évidemment, hein, pour ce qui concerne les cultures, les friches, ou beau et au sale, mais aussi des références explicites qui sont esthétiques, mais aussi à l'utilisation de la machine, comme étant quelque chose de valorisant. Puisque ce qui est intéressant, en fait, si on reprend la typologie rapidement, c'est que les agriculteurs du type A, c'est des agriculteurs qui systématiquement, et ça Dominique Père l'avait bien montré dans l'Est de la France, c'est des agriculteurs qui dévalorisent systématiquement l'herbe dans leur discours, et qui valorisent le maïs, comme étant une action valorisante professionnellement pour eux. Exactement. Et surtout, on travaille quand on fait du maïs. On fait le maïs, on le distribue.
C'est une
Exactement, mais c'est une vieille rengaine, tout à fait.
Et à l'inverse, des agriculteurs sur le flanc gauche hein, du plan, qui valorisent, qui essayent de davantage valoriser l'herbe, mais qui sont pas tout à fait exempts hein, de vieilles remontées, on va dire, remontées acides un peu, à propos du maïs. En fait, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est justement cette question du travail en agriculture. En fait, on se rend vite compte, notamment quand on s'intéresse aux friches, puisque là, en fait, on a une photo, c'est le paradis d'un écologue, hein, de la biodiversité maximale. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'agriculteur ? Lui, il nous dit l'inverse. Il nous dit, les endroits comme ça, en fait, ça fait peine à voir. On se dit que c'est triste et qu'il n'y a plus de vie. Alors que c'est le paradis de la biodiversité. Hein. On est d'accord ? Il n'y a pas de Roundup, là, oui, non, effectivement. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé, et on pourrait finir par un exemple, hein, c'est la photo qui est en haut à droite. C'est l'agriculteur qui me dit que... Alors lui, ses vaches sont devant, là, et il a la parcelle qui est sur le coteau, à gauche. Donc c'est sur la Cuesta du Pays d'Auge, hein, je pense que ça n'a pas échappé à grand monde. Et l'agriculteur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, bah, les buttes comme ça, donc il parle de la partie droite, hein, ça s'encrasse, alors si le gars, il est courageux, ça va, il nettoie, mais s'il ne sait pas bosser, ça reste comme ça. En fait, il fait référence explicitement à son voisin, agriculteur biologique, voilà, qui, effectivement, accepte pas forcément de faire de traitements chimiques hein, sur ses parcelles, pentues, etc. Alors, ce que je trouve intéressant ici, en fait, c'est de voir que on a souvent tendance, alors, au mieux, à considérer que les agriculteurs ont un point de vue homogène sur le paysage, au pire, à considérer qu'ils n'en ont pas, ce qui a longtemps été le cas. Hein. Les géographes ont été capables de dire, hein, on se souvient même, il n'y a pas si longtemps que ça encore, que les agriculteurs n'ont pas de rapport au paysage. N'entretiennent pas de relation au paysage. Puisque c'est l'exercice professionnel et qu'il n'y a pas lieu pour ça et qu'en plus c'est une population qui a moins d'appétence, on pourrait dire, à la contemplation. Ce qui n'est pas du tout le cas. On s'aperçoit qu'en fait, si on fait un petit bilan rapide, hein, que les agriculteurs en fait sont très sensibles au paysage. Alors, de manière plus générale, qu'est-ce que nous enseigne un peu cette approche compréhensive des pratiques ? D'abord, qu'en fait, les motivations peuvent apparaître dans une certaine mesure comme universelles. Partout, évidemment, les agriculteurs ne cherchent pas à éviter la commodité du travail. Partout, ils cherchent cette commodité-là. Ils cherchent les gains de temps, puisqu'ils sont, en plus, ils croulent sous une charge de travail qui est croissante et de plus en plus difficilement supportable. J'en veux pour preuve hein, le nombre de suicides très important dans le monde agricole. Ceci dit, on remarque que leur logique d'action reste en fait assez diverse. En fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les agriculteurs, en fait, ils agissent suivant des logiques dans leur pratique qui ont du sens, mais qui ont du sens dans leur propre système de rationalité. Et que ces systèmes de rationalité, ils sont construits en référence au modèle dominant et aux normes dominantes qui ont cours dans le système local de sociabilité. Quel est le type d'exploitation qui est dans la norme ou pas dans la norme ? Et on s'aperçoit, en fait, qu'on peut tout lier de cette manière-là, que ces modèles et ces normes, qui sont définis au sein des réseaux de sociabilité, qui sont très souvent professionnels, en fait, ils définissent la place et la valeur des différentes actions techniques pour les individus. Et qu'à travers la valeur de ces actions techniques pour les individus, on peut comprendre une partie de la structuration des représentations paysagères. Puisqu'en fait, les agriculteurs, je comprends maintenant pourquoi il y a des chercheurs qui ont dit qu'ils n'avaient pas de sensibilité paysagère exacerbée. En fait, c'est parce qu'il y a une lecture du paysage qui n'est pas la même hein, que celle de non-agriculteurs. Effectivement, d'abord, les agriculteurs, ils sont très sensibles au paysage qui les entoure. Ça, c'est indéniable. Leurs représentations, on peut les différencier suivant plusieurs facteurs, hein, l'âge, enfin la génération, ou le modèle auquel ils adhèrent, leur positionnement. En fait, ces modèles-là, ils renvoient, c'est ce que je disais tout de suite, hein, à des imaginaires qui sont ce que les sociologues appellent les imaginaires du productivisme agricole, hein, c'est-à-dire la place du travail, de la nature, du contrôle de l'espace, etc., qui sont en fait les témoins, à mon sens, des recompositions qu'on observe aujourd'hui au sein du monde agricole. Dans le lait, ça prend une tournure particulière depuis un an ou deux, mais c'est, à mon sens, particulièrement intéressant. Alors, pour conclure rapidement,
des résultats généraux, si on veut essayer de remonter un petit peu ou de relier les échelles entre elles, on s'aperçoit, d'une part, au regard du travail sur les trois régions, les cinq zones laboratoires, les 25 exploitations, qu'il n'y a pas réellement de spécificité régionale hein, dans le processus de production de structures paysagères par les systèmes laitiers. On a des logiques qui sont assez similaires. On sait qu'il y a des facteurs de contrôle qui sont importants, la distance, et inhérent à cette distance-là, ou du moins en lien avec la distance, le niveau de concentration foncière. On a compris que, ça c'est pas un scoop non plus, hein, mais que l'exploitation agricole, c'est en fait le niveau clé de la compréhension de ce processus de production d'espace, ou de paysage, comme on veut. On sait aussi que les représentations, du moins les rapports qu'entretiennent les agriculteurs avec le paysage, sont intimement liés à leur identité professionnelle. Et la dernière question que je voudrais poser, c'est que on pourrait se demander en fait si les différences constatées entre les différents modèles, c'est l'hypothèse que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, en fait, elles ne seraient pas liées tout simplement à des stades d'évolution différents des systèmes laitiers dans chacune des cinq zones, en fonction des types de structures en présence. Ça, moi, j'en suis pas encore sûr. C'est une hypothèse que je pose pour l'instant. Est-ce qu'en fait, le système ciseau classique avec deux courbes qui se croisent anglais, tous ces systèmes laitiers, si l'évolution se poursuit comme elle se poursuit, sont pas, si la concentration foncière continue, si le niveau de mécanisation, je vois pas comment il pourrait encore progresser de manière phénoménale, mais bon, si ça continue toujours sur les mêmes tendances, l'agrandissement des exploitations, est-ce que toutes les zones étudiées sont pas en fait voué à se retrouver dans la situation de l'Angleterre aujourd'hui. Une question à poser. Je pense que la Galice, notamment, pourrait tout à fait se retrouver dans cette situation-là, même dans peu de temps. Voilà. Sans atteindre les niveaux de concentration foncière anglais. Voilà. Je vous remercie.